Vous appuyez là pour enregistrer, vous voyez? C'est parti.
Le son du bois.
Bonjour, bienvenue parmi nous. Vous avez embarqué pour une croisière littéraire, alors installez-vous bien, détendez-vous et ouvrez vos oreilles.
Cette semaine, nous avons décidé de lire des extraits de romans parlant de la Deuxième Guerre mondiale vus par des enfants.
Le premier extrait, lu par Méline, est le début du roman Juillet 42, Sous une mauvaise étoile de Stéphane Descornes.
Horrible était que celui de 1942, le plus étouffant que Paris eût connu depuis longtemps. C'était le dernier jour de juin, en fin d'après-midi. Munis d'un maigre sac à provisions, les trois enfants remontaient le quai de Grenelle, la gorge sèche, fourbue, en nage. « 3 heures de queue !» s'exclame Lise Angevin en consultant sa petite montre-bracelet. « Les gars, on vient de battre un record !» Elle exhibait fièrement la jolie montre qu'elle avait reçue pour ses 12 ans, et qui avait appartenu à sa grand-mère. François, son frère cadet, y jeta un bref coup d'œil. Leur ami Jonas, le plus jeune de la bande, lâcha quant à lui un soupir épuisé. « Tu as eu de la viande ?» s'enquit Lise en lorgnant le sac de son frère. « Aujourd'hui, mardi, c'était un jour sans. Les boucheries étaient fermées et personne ne pouvait acheter de viande, du moins en principe. Le rideau de fer était à moitié baissé, expliqua François. Alors, j'ai jeté un coup d'œil dans la boutique. Quand le boucher m'a vu, il a grogné quelque chose de pas aimable. Il m'a coupé des tranches de viande, comme un dingue, et m'a tendu le paquet avec un regard d'égorgeur. Je hais ce type. Je te rappelle que l'égorgeur a une dette envers papa, dit Lise. S'il ne nous vend pas de viande, il sait qu'il lui arrivera des bricoles. D'où l'intérêt d'avoir un père flic, plaça Jonas, un rien caustique. « T'es marrant, toi !» répliqua François. « Si on veut pas crever de faim, faut bien se débrouiller, non ?» François faillit lui rappeler ce qu'ils étaient censés trouver chaque jour dans leur assiette. En gros, 30 grammes de viande, 275 grammes de pain, 7,5 grammes de beurre, 7 grammes de fromage, 8 grammes de chocolat, 2 sucres, pas de légumes, parfois un œuf, jamais de lait. Il se contenta d'exhiber ses bras maigres. « Si on s'en tenait aux rations autorisées, conclut-il, en 2 mois, on se transformerait en squelette ambulant. »«
Je sais, » dit Jonas, « je plaisantais. »
Lise poursuivit son inventaire. « Et toi, Joe, tu as eu quoi ?»
Jonas désigna son sac à moitié vide.
« Pas grand-chose, » annonça-t-il en grattant sa tignasse rousse d'un air contrarié.
« Pas grand-chose, » annonça-t-il en grattant sa tignasse rousse d'un air contrarié. « Des rutabagas !»
Ses amis firent la grimace. Jonas ajouta. « Il y avait 8 farines, et pour les œufs ?» Faudra revenir demain.
Et maman qui voulait nous faire un gâteau, soupira la fillette. On ne devait pas recevoir un colis de cousin pour papa ?
Demanda François.
Les Bretons ? Tu sais bien que les colis ont du mal à arriver, objecta Lise. Les gens les volent en route. Et on ne peut même pas leur en vouloir. C'est la guerre. Tout le monde crève de faim.
Nous aussi on crève de faim, grommela François.
Tout ça à cause des...
Le bruit rauque d'un moteur l'empêcha de finir sa phrase. Une voiture noire, chargée d'officiers SS, passa en trombe sur le pont. Un même frisson saisit les 3 gamins.
Les Boches !
Le second extrait, lu par Pauline, Luna raconte l'entrée des Allemands dans Varsovie en 1939. Luna est juive. Pour elle, ce ne sera que le début des ennuis. Ce texte est issu du roman « Chante Luna » de Paul Dubouchet.
Le ghetto. Les Allemands sont entrés dans Varsovie en septembre 1939. J'allais avoir 14 ans. J'attendus la première explosion pendant une leçon de chant. Toutes les vitres de l'immeuble ont volé en éclats. Madame Panfiska m'accompagnait au piano et elle s'est arrêtée. Elle a juste laissé ses mains sur le clavier, s'est immobilisée et juste à ce moment-là, le devant du piano s'est abattu sur ses genoux. Je n'ai pu retenir un fou rire. Au loin, nous avons vu brûler l'immeuble sur lequel est tombée la bombe. Cela a été notre dernier cours de chant. Les jours suivants, nous avons passé dans la cave. Varsovie était sous un déluge de feu. Il avait des explosions sans arrêt et j'avais très très peur. De nombreux juifs ont fui la ville, principalement les plus riches, ou ceux qui avaient de la famille à l'étranger. Quant à nous, il n'en fut pas question. Mon père savait que l'arrivée des Allemands signifierait le commencement du désastre. Mais pour ma mère, quitter Varsovie, où elle était née, aurait été en soi un désastre bien plus grand que tout ce qu'elle pouvait imaginer. L'attente a commencé, une certaine attente qui n'allait plus nous lâcher, qui nous tenait enchaînés sur place. Fallait-il partir? Fallait-il rester? On ne savait pas. Fallait-il obéir à tous les ordres qui s'abattaient sur nous jour après jour? Fallait-il au contraire les ignorer? Les avis étaient partagés. Fallait-il descendre du trottoir quand on voyait un Allemand? Arrêter de fréquenter les cafés? Ne plus traverser un jardin public? Ne plus faire cuire son pain? Allait-on pire encore? Ou les choses allaient-elles s'arranger? Comme certains le prétendaient, il fallait être patient. Devait-on accepter de ne plus avoir d'argent sur soi, de ne plus se faire soigner par un médecin à Rien, de ne plus porter de bijoux et de ne plus descendre le tramway? De ne plus mettre les pieds dans une boutique à Rien? Personne ne voulait le dire, il fallait attendre. À force d'attendre, nous, les Juifs, nous nous sommes retrouvés paralysés. Ceux qui ont été sauvés, ce sont ceux qui n'ont pas attendu.
Nous arrivons à la fin de notre voyage. Vous pouvez regagner la terre ferme. À bientôt pour un prochain voyage.
Bienvenue dans mon zoo.
Bonjour, c'est Alexian, bienvenue dans mon zoo. Je vais vous parler de toutes sortes d'animaux et de leurs petits secrets. Aujourd'hui, place au raton laveur, ce petit animal qu'on retrouve en Amérique et en Europe du Nord est omnivore. Il pèse en moyenne 3 et 9 kg pour une taille de 80 cm. On le reconnaît facilement à son masque noir bordé de blanc autour des yeux et à sa queue rayée de blanc et de noir. Le principal prédateur du raton laveur est l'homme, qui a longtemps chassé pour sa fourrure. Il peut aussi être chassé par des renards, des loups ou, sur d'autres continents, par des pumas, coyotes, alligators, etc. Vous n'avez certainement jamais vu de raton laveur. Non pas parce qu'on n'en trouve pas en France, au contraire, on en décompte plus de 10 000, mais parce qu'il vit, chasse la nuit et dort le jour, bien à l'abri. Ce que le raton laveur préfère, vous vous en doutez, c'est vivre près d'un cours d'eau, mais il vit aussi en ville. Contrairement à ce qu'indique son nom, le raton laveur ne nettoie rien. On l'appelle ainsi car lorsqu'il observe ses futures proies, il reste au bord de l'eau comme s'il se lavait. Voilà, vous connaissez mieux ce petit animal. Maintenant, à vos lampes de poche pour aller l'observer dans la nature. Avant de finir, je vous propose un petit jeu. Vous allez entendre le cri d'un animal. À vous de découvrir lequel. Vous êtes prêts? Voilà, vous avez deviné. La réponse est dans la prochaine émission. À bientôt dans mon zoo.
La revue de presse.
Bonjour, c'est Théo. Nous revoilà pour une nouvelle revue de presse de janvier. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, je vais vous parler de Science et Vie Junior de décembre 2015 hors série. Le numéro hors série de janvier revient sur les 20 idées scientifiques qui ont changé le monde. En lisant cette revue, vous apprendrez beaucoup. Par exemple, vous découvrirez les secrets de l'ADN et les difficultés qu'ont rencontrées les chercheurs pour percer les mystères de cette molécule. Vous saurez finalement que les atomes ne sont qu'une sorte de Lego, ou bien encore qui a découvert les minuscules êtres vivants appelés microbes. À bientôt pour ma nouvelle revue de presse.
Un chiffre, une actu.
Aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons parler des lecteurs. C'est une enquête BVA qui indique que 4% des adultes français lisent au moins un livre par semaine. Avant de dire que les jeunes ne lisent pas assez, les adultes devraient penser à donner l'exemple. Cette information est tirée de Mon Quotidien du jeudi 10 septembre 2015. Fin. Retrouvons-nous la prochaine fois.
Les filles, écoutez-moi. L'amour, il y a trop de mariage. Je ne veux pas des filles. J'ai une idée.
Alors, pouvez-vous nous présenter un petit peu le projet que vous avez eu avec Jacques Livchine, si je prononce bien, auquel vous avez participé?
C'est un projet de théâtre où il venait tous les jeudis pendant 6 séances pendant 1h30 et il nous apprenait un peu son métier et on a fait une pièce. Enfin.
Allez, on y va. Montez sur scène. J'interroge. Et toi, tu t'appelles comment ?
Capin.
Quel est ton métier ?
Mon métier consiste à fabriquer des pièces de théâtre.
Ah, c'est Jacques Lefchine.
Que je présente après à un public. Des pièces de théâtre soit classiques, soit des pièces de théâtre inventées, qui parlent de la vie des gens, de la vie de tous les jours. J'appartiens à une compagnie de théâtre qui s'appelle le Théâtre de l'Unité, qui est actuellement situé à Audincourt, dans le Doubs, mais qui avant était à Paris, dans les Yvelines, et qui a beaucoup voyagé.
Quel est ton nom ?
C'est Pierre Taillon.
Comment s'appelle ton valet ?
Léon Sylvestre.
Et toi, comment tu t'appelles ? Germinette, t'es tombée amoureuse de qui ? De Léon. Et toi, Germinette, tu viens d'où ?
D'Égypte.
D'Égypte ? T'es une étrangère, alors ? Ah, d'accord. T'as été abandonnée par tes parents et par Léon ? Ah, t'as été abandonnée par... Et toi, Germinette, raconte-moi ta vie.
Je suis
Ouais.
Je suis orpheline.
T'as été volée, t'es une enfant volée. T'as été volée quand j'étais jeune. T'es une enfant volée. En fait, tu vas redécouvrir ton père. Il s'appelle...
Non.
Oh là, attention. Mon père, il s'appelle Géronte.
Oh, c'est
moi. Et vous, monsieur, vous êtes qui ?
Léon.
Vous avez de l'argent ?
Bah oui.
Beaucoup d'argent ?
Oui.
Votre père, il s'appelle comment ?
Armand.
Il se trompe pas là ?
Si, parce que moi, j'ai vraiment c'est Géronte.
Hein ? C'est Géronte, ton père. Ok.
Ah oui, bah oui.
Très bien, merci les amoureux, dégagez.
Oh. Quand votre projet a-t-il commencé ? Qui a participé et dans quel but, en fait, faire ce projet ?
Ben, en fait, toute la classe de 5e C a participé. Bon, il a commencé il y a déjà pas mal de temps, vers la moitié du premier trimestre. Après, on ne sait plus la date exacte. Et on était censé représenter la pièce des fourberies de Scapa pour mieux la connaître.
Je cherche la canaille, la racaille. Vous cherchez qui ? Géronte. Ce n'est pas lui.
Quand on vous a présenté ce projet au début, qu'est-ce que vous avez pensé ?
On pensait que ça aurait été pas cool, parce que on pensait que c'était... Pas très fun, parce que c'est le théâtre, voilà. Puis en fait, même au bout de la première séance, on a trouvé que c'était amusant.
Voilà, et j'ai commencé le théâtre, vous ne m'avez pas demandé. J'ai commencé le théâtre en seconde. Quand un professeur a dit, est-ce qu'il y en a qui veulent jouer une pièce de théâtre ? Puis moi, J'ai levé la main comme ça, j'étais pas sûr de moi. Oh, putain, comment c'est ? Un peu mou. Ah ben, Jacques, tu veux jouer ? J'ai pas compris que le doigt, t'as vu ce doigt-là ? J'allais le mettre dans un engrenage. C'était fini, ma vie était finie. J'allais faire du théâtre.
Cachez-vous vite, on vient vous attaquer.
Vous devez aller.
Cachez-vous en tout cas. Venez, dans ce sac, je vais vous transporter.
Et est-ce que vous pensez qu'il y aurait des qualités requises pour faire du théâtre ?
Pas du tout.
Patient.
Savoir apprendre, enfin avoir une bonne mémoire quand
ouais,
même.
Puis apprendre les répliques parce que.
Je cherche Gérante. Je vais. C'est bon, je l'ai.
Chauffeur, chauffeur. Chauffeur. Vous savoir.
Quelles qualités ou compétences sont nécessaires ?
Ce qu'il faut comme qualité, c'est la passion. C'est une passion effrénée, c'est une passion totale. C'est que pour le théâtre, tu dois sacrifier ta femme, tes enfants, etc. C'est pire que d'être un curé ou je sais pas quoi. C'est un militantisme, c'est-à-dire tu dois toujours donner. C'est pas un, mais c'est une passion, voilà. Une passion, c'est de l'amour du théâtre, voilà.
Il est prêt à casser le mariage contre quelques monnaies sonnantes.
Combien veut-il ?
500, et il sera content.
500 pistoles, mais c'est un fou, un malade, c'est énorme.
Il dit qu'il doit aller à la guerre. Il a besoin de un cheval, à 60 pistoles.
60 pistoles, c'est honnête.
Oui, mais il lui faut aussi deux pistolets. L'équipement pour le cheval, un autre cheval pour son valet, un mulet pour porter les bagages. Le tout fera 500 pistoles.
Stop, je vais à la justice. Il n'aura rien du tout.
Cachez-vous vite. Voilà votre frère.
Voyez. Par exemple, moi, qui fais de temps en temps les ateliers, quand vous dites parler plus fort, ça n'a jamais de résultat. C'est très compliqué de parler fort. Et c'est pas naturel. Dans la société, on vous demande d'être discret. On vous demande pas de gueuler. Hein. Ceux qui parlent fort, ils sont mal vus. Et j'ai vu que parler fort, à part si je dis, toi, t'es qu'un petit con, tu n'es qu'un, et que ça l'énerve, il va me répondre, il aura de la voix, tu vois. Si quelqu'un te donne un coup, tu auras de la voix. Dans la cour de récré, tu as de la voix. Donc tu peux provoquer les gens pour leur dire, vous avez de la voix, quand vous étiez bébé, vous avez emmerdé tout le monde, vous criez tellement fort, donc elle est en vous, la voix.
Au port, on va aller se promener. On a rencontré un jeune turc très sympathique. Il nous fait monter dans sa galère, il nous offre des friandises, des fruits, il nous dépose et il nous dit que si vous ne lui donnez pas 500 pistoles, votre fils deviendra esclave à Alger. Il nous laisse 2 heures pour lui apporter l'argent.
Et que diable est-il fait dans cette galère ?
Il ne savait pas ce qui allait lui arriver.
Mais que diable est-il fait dans cette galère ? Je vais avertir la police.
La police, en pleine mer, vous rêvez.
Mais que diable est-il fait dans cette galère ?
Est-ce que tu aimes ce métier ? Pourquoi ?
Ce métier, il y a des jours, je le déteste. Il y a des jours, c'est trop dur. Il y a des jours, on est trop fatigué. Il y a des jours, on est trop angoissé. Il y a des jours, on n'est pas content. Parce que tu peux fabriquer une pièce que toi, tu trouves bien. Mais si par hasard, les directeurs de théâtre la trouvent pas bien, tu peux pas la jouer, elle te reste sur les bras, etc. Mais normalement, moi, je me dis que j'aurais pas pu faire un autre métier. Puis c'est un métier, tu fais plein de choses tous les jours. Un jour, tu fais de la promotion de ta pièce. Un autre jour, tu dois... Actuellement, je suis en train de ranger les photos des 10 dernières années, tirer les photos. Un autre jour, je suis obligé d'écrire des dossiers. Un autre jour, je suis obligé de faire un atelier théâtre, de convoquer des comédiens. Enfin, tous les jours, ça change, c'est varié. C'est un métier varié, varié. Puis de temps en temps, t'as des satisfactions, par exemple, quand tout le public, tu joues ta pièce, tout le public se lève debout, etc. T'es content, un petit peu content. Voilà.
Conseillez-vous ce métier ? Oui, non, pourquoi ?
Ah ben ça, je vous le déconseille formellement, parce que si t'as pas la passion, c'est pas la peine. Il faut vraiment être passionné, parce que ça va être toujours très difficile. Il faut tenir le coup dans la tempête de temps en temps. Personne ne voudra de toi. Il y a des jours difficiles, voilà. Non, il faut vraiment aimer ça. Et puis, au niveau financier, j'ai dit là, parce que je suis à 70 ans, alors t'imagines, parce que là, je cumule plein de revenus. Mais au tout début, je gagnais ce qu'on appelle, comment ça s'appelle aujourd'hui, le RSA, le SMIC, la plus petite somme. Pendant des années, je gagnais la plus petite somme. Je gagnais comme un ouvrier spécialisé. Et puis, peu à peu, avec le succès, tu gagnes un peu plus, etc. Tu deviens connu, etc. Mais c'est tout de même difficile. Et moi, si mon père avait... Si j'avais pas volé mon père, j'étais obligé de le voler pour avoir un peu d'argent. Parce que moi, je suis comme Scapin. Moi, je prenais mon père, il avait de l'argent qui tombait de son pantalon. La nuit, j'allais ramper sous le lit pour lui prendre un petit billet. C'était comme ça. Au début, tu n'es pas tout à fait honnête. Comme Scapin. Oui.
Je ne sais pas ce qui allait lui arriver.
Tiens, retourne au port, dis aux Turcs qu'ils te prennent en otage, toi, et qu'ils me rendent mon fils.
Vous n'y croyez pas? Un pauvre comme moi? Cela ne m'intéresse pas.
Mais que diable vas-tu faire dans cette galère?
Ah, Léandre, mon pauvre maître, votre père ne veut pas payer. Vous allez vous retrouver enrôlé.
Et j'en viens au projet. Et pour finir, si vous recommencez ce projet, qu'est-ce que vous changeriez ou est-ce que vous ne changerez rien en fait? Si vous changeriez des choses, qu'est-ce que vous feriez?
Bah, on changerait rien, quoi.
Pour vous, tout est parfait. Ça nous a bien plu, quoi.
Ouais, ça nous a vraiment plu. Et puis, bon, évidemment, il y avait quelques fautes, mais ça nous a plus fait rire qu'autre chose, quoi. Merci.
Bon, bah, merci beaucoup pour votre participation et merci de nous avoir écoutés.
C'est l'heure du poète.
L'automne est une poésie d'Alphonse de Lamartine qui sera lue par Méline.
L'automne. Salut, bois couronné d'une reste de verdure, feuillage jaunissant sur les gazons épars. Salut, dernier beau jour, le deuil de la nature convient à la douleur et plaît à mes regards. Je suis d'un pas rêveur, le sentier solitaire. J'aime à revoir encore, pour la dernière fois, ce soleil pâlissant, dont la faible lumière perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois. Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire, à ces regards voilés, je trouve plus d'attrait. C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire des lèvres que la mort va fermer pour jamais. Ainsi, prêt à quitter l'horizon de la vie, pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui, je me retourne encore, et d'un regard d'envie, je contemple ces biens dont je n'ai pas joui. Terre, soleil, vallon, belle est ma douce nature. Je vous dois une larme au bord de mon tombeau. L'air est si parfumé, la lumière est si pure. Au regard d'un mourant, le soleil est si beau. Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie ce calice mêlé de nectar et de fiel. Au fond de cette coupe où je buvais la vie, peut-être restait-il une goutte de miel? Peut-être l'avenir me gardait-il encore un retour de bonheur dont l'espoir est perdu? Peut-être dans la foule, une âme que j'ignore aurait compris mon âme et m'aurait répondu. La fleur tombe en livrant ses parfums aux zéphyrs, à la vie, au soleil, ce sont là ses adieux. Moi, je meurs, et mon âme, au moment qu'elle expire, s'exhale comme un son triste et mélodieux.
C'est l'heure du poète.
Bon, bah, merci beaucoup pour votre participation, et merci de nous avoir écoutés.
Le son du bois.